Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. L'événement politique du jour sur France Inter avec le premier débat de la primaire écologiste. Décroissance, taxe carbone, sécurité nucléaire. Un débat d'écologistes responsables. Nous serons avec Laurence Perron dans un instant. À droite, les jeunes militants du Parti Républicain s'impatientent et s'agacent. La question de la primaire n'est toujours pas tranchée. Clément, jeune militant Les Républicains.
Il faut accélérer, la présidentielle arrive très vite. Emmanuel Macron est déjà en campagne. En face, tout le monde est organisé et nous, on attend, tergiverse, on réfléchit, on se regarde.
Le déclin de la quatrième vague de l'épidémie en une semaine, les contaminations ont baissé de 20%. Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, écarte la vaccination pour les moins de 12 ans. Dans ce journal également, une tentative de coup d'État en Guinée et nous irons à Marseille où les peuples d'Amazonie ont fait leur entrée comme membres de plein droit dans l'Union internationale de conservation de la nature. Vos rendez-vous du 19h avec la page sport au programme du football et une équipe de France très laborieuse hier soir en Ukraine. Du tennis avec l'US Open et du rugby avec la reprise ce week-end du top 14 et puis Tokyo, extinction de la flamme et c'est déjà Paris 2024. Nous ferons le bilan de la délégation française aux Jeux Paralympiques. Notre page agenda avec les temps forts de l'actualité à suivre la semaine prochaine et notre rendez-vous du dimanche soir avec Sandrine Houdin, c'est mon actu. Rencontre avec une septuagénaire hors norme, Anne en fauteuil roulant va faire la route entre Paris et la Normandie à l'occasion de la fin des Jeux Paralympique. Le temps demain chaud et ensoleillé. Jean-Michel Kolinski à la fin de cette édition à 13h30 à 19h30. Les petits bateaux, Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 9 ans et je voudrais savoir d'où vient le sable des plages. Merci de me répondre.
Les petits bateaux, c'est bien à 19h30.
France Inter.
L'événement politique de la journée sur France Inter avec le premier débat de la primaire écologiste. Les 5 candidats se sont retrouvés sur la plupart des thèmes et notamment le nucléaire, la transition énergétique ou la laïcité. Un débat d'écologistes responsables selon la formule de Yannick Jadot. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Un premier débat avec plusieurs moments forts.
Alors on retiendra d'abord en ouverture la balle dans le pied que se tire le centriste Jean-Marc Governatori, interrogé sur sa loyauté.
Si je gagne à primaire et que Sandrine Rousseau me soutient, ça me porte préjudice. Si elle gagne à primaire et que je la soutiens, je lui porte préjudice.
L'écoféministe lui répond en expliquant que c'est une humiliation qui l'a poussée à se présenter.
Et cette humiliation, ça a été quand Emmanuel Macron, le président de la République, a balayé d'un revers de main le mouvement de milliers de femmes en nommant à la tête de la police un ministre lui-même accusé de viol.
Une séquence laïcité, tous la défendent. Nuance toutefois entre Sandrine Rousseau et Delphine Batho.
La loi qui a interdit le foulard à l'école est une loi qui a contribué à l'émancipation des filles et à l'émancipation des femmes.
Sandrine Rousseau, présidente de la République.
Non, je ne reviens pas sur cette loi-là. Je n'ai pas de doute sur le fait que le voile soit sexiste. Mais on ne fait pas de l'émancipation par de l'interdiction sur le corps des femmes. Pas plus sur des crop tops que des voiles.
Sur l'économie, tous prônent un changement de modèle, qu'on l'appelle décroissance, comme chez Delphine Batho, ou transition écologique, Yannick Jadot.
Mon écologie, c'est une écologie de combat et une écologie de solution. Mon seul engagement, c'est l'écologie et la justice sociale.
Enfin, pour évacuer le soupçon d'une écologie de gauche qui irait se vendre à Jean-Luc Mélenchon, le maire de Grenoble, Éric Piolle, clarifie.
Nous fédérerons ceux qui ont cru à la nouveauté d'Emmanuel Macron en 2017 et qui ont rompu avec le macronisme et ceux qui ont espéré en Jean-Luc Mélenchon et qui voient bien que ce n'est pas le chemin de la victoire.
Alors il reste encore 2 épreuves médias pour les candidats avant le vote la semaine prochaine.
Alors premier tour de la primaire justement du 16 au 19 septembre prochain, vote en ligne. Quel est selon vous, Laurence, le candidat qui s'est détaché aujourd'hui?
Alors j'ai envie de dire que personne n'a démérité et chacun a pu faire valoir sur les différents sujets sa singularité. Pas sûr toutefois que la gauche décrite comme un boulet par Jean-Marc Governatori ne rebute une large part des militants, tout comme sa sortie du nucléaire à l'horizon de 2020-2030 ou pourquoi pas dans 50 ans. Bien plus habile, Yannick Jadot qui parle de radicalité écologique tout en martelant « nous sommes des écologistes responsables ». Il assume une sortie progressive du nucléaire, mais elle se fera rapidement puisque c'est l'un des principes intangibles du programme d'Europe Écologie Les Verts que le ou la vainqueur devra porter. Ils s'y sont tous engagés. L'eurodéputé très à l'aise a pris l'ascendant sur le maire de Grenoble, Éric Piolle. Très accrocheuse aussi, l'écoféministe Sandrine Rousseau, jamais prise au dépourvu, même quand elle est attaquée de manière offensive sur la laïcité. La présidente de Génération Écologie, la députée Delphine Bateau, a marqué des points aussi, avec un argumentaire sérieux pour la décroissance, concept en réalité partagé par l'ensemble des écologistes, pour qui la boussole de la croissance et du productivisme est obsolète face aux défis de la sauvegarde de la planète.
Et ce premier débat de la primaire écologiste à retrouver sur franceinter.fr. Merci Laurence Perron. Et pendant ce temps, à droite, où la primaire n'est encore qu'une éventualité, les jeunes républicains, pour leur entrée politique, ont échangé tout le week-end au Parc Floral avec les ténors du parti. Cet après-midi, avec Christian Jacob, le patron des LR. L'épineuse question du candidat de droite n'est pas tranchée. Y aura-t-il une primaire ou pas? La droite tourne autour du pot. Les jeunes militants, les républicains, commencent à perdre patience, Anne Souhaitemont.
Oui, c'est long, on perd trop de temps.
Comme Clément, après un week-end de table ronde, beaucoup de militants sont agacés de ne toujours pas savoir comment sera choisi le candidat de droite à la présidentielle.
Il faut accélérer, la présidentielle arrive très vite. Emmanuel Macron est déjà en campagne. En face, tout le monde est organisé et nous, on attend, on tergiverse, on réfléchit, on se regarde.
Mais fidèle à sa ligne, le patron du parti, Christian Jacob, continue d'esquiver la question de la primaire.
Donc maintenant, on est sur cette dernière ligne droite qui est celle de la présidentielle. Il faudra l'incarnation, on vous l'a dit 50 fois, on vous le redira encore.
Pas d'urgence, renchérit le numéro 3 du parti, Aurélien Pradier.
On est au mois de septembre, rien ne s'est jamais décidé avant le mois de novembre ou de décembre pour une élection présidentielle. Céder à l'urgence, ce serait céder à la panique.
Un flou qui permet à Laurent Wauquiez de faire le show. Malgré son retrait de la course à l'Elysée, l'ancien président du parti est acclamé.
Ah, évidemment que ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça me fait plaisir qu'il soit là.
Un Laurent Wauquiez désormais faiseur de roi, qui savoure, faute de processus clair de désignation, ses partisans continuent de rêver tout haut.
Mais il n'est pas candidat ?
Mais on a envie. Parce qu'il n'y a personne qui reprend sa voix.
Prochaine étape mardi, un conseil stratégique, l'occasion, espèrent certains cadres, de sortir du surplace dans lequel est empêtrée la droite sur la question de la primaire.
Et puis à l'approche de l'ouverture mercredi du procès des attentats de novembre 2015, Valérie Pécresse, ce matin dans le journal du dimanche, dévoile son programme en matière de sécurité pour contrer la menace islamiste. La candidate à une éventuelle primaire à droite souhaite faciliter l'expulsion des islamistes étrangers. Réponse rapide de Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté. Un peu plus de 600 étrangers radicalisés ont été expulsés depuis 2018. Tentative de coup d'État en Guinée. Les putschistes affirment détenir le président Alpha Condé. Les militaires ont diffusé une vidéo où apparaît le président Condé, réélu l'an dernier. Ils ont annoncé dissoudre la constitution et les institutions. De son côté, le ministère de la Défense affirme dans un communiqué que les assaillants ont été repoussés. Situation confuse ce soir à Conakry, Olivier Poujade.
L'annonce solennelle faite en fin d'après-midi à la télévision publique guinéenne a tout d'une déclaration officielle.
Nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes.
Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya à la tête des forces spéciales de l'armée.
Nous appelons nos frères d'armes de rester dans les casernes et continuer leurs activités régaliennes.
Le chef des putschistes confirme également détenir le président Alpha Condé, apparu un peu plus tôt dans une vidéo sidérante, chemise ouverte, pieds nus, affalé dans un canapé, refusant de répondre aux militaires lui demandant de confirmer qu'il n'avait pas été maltraité. Dans la ville, d'autres vidéos témoignent de scènes de liesse dans une des artères principales de Conakry, au passage des véhicules des hommes de Doumbouya. La réélection d'Alpha Condé l'an dernier pour un troisième mandat à la suite d'une modification de la Constitution avait cristallisé les tensions sociales, économiques et politiques dans le pays, des tensions ayant provoqué depuis des mois la mort de plusieurs dizaines de personnes.
Et puis en Afghanistan, Ahmad Massoud, le chef de la résistance anti-taliban dans la région du Panjshir, se dit ce soir prêt à parler aux talibans. Après plusieurs jours de combats, le chef de la résistance afghane accepte le principe d'un arrêt des combats et de poursuivre les négociations. En France, le déclin de la quatrième vague et un peu d'espoir dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, explique que la quatrième vague évolue positivement. Les contaminations baissent 20% en une semaine, Solène Lehen.
La quatrième vague de l'épidémie de Covid est clairement en reflux. Le pic des contaminations est passé il y a une quinzaine de jours. La courbe redescend, 20% de cas en moins en une semaine. Le pic des hospitalisations vient lui tout juste d'être franchi. Grâce à la vaccination, il a été limité. Un peu plus de 10 000 personnes hospitalisées, quand cet hiver on était monté à plus de 30 000. En réanimation, 2 000 malades au pic de cette quatrième vague il y a quelques jours. Plus de 7 000 l'an dernier lors de la première vague. L'inquiétude, ce sont les Outre-mer, Polynésie, Guadeloupe, Martinique et Guyane où les taux d'incidence sont très élevés et la population peu vaccinée. En métropole, si la tendance est à la baisse, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, appelle néanmoins les Français à la vigilance en cette rentrée pour éviter tout rebond épidémique à l'occasion de brassage de population et du retour à l'école des enfants.
Par ailleurs, Jérôme Salomon explique que pour le moment, la vaccination des moins de 12 ans est écartée. À Marseille aujourd'hui, les peuples d'Amazonie ont fait leur entrée comme membres de plein droit dans l'Union internationale de la conservation de la nature. Hier, l'UICN publiait une mise à jour de sa liste rouge des espèces menacées. Aujourd'hui, le bassin et la déforestation sont au cœur de ce congrès mondial de la nature, le bassin amazonien. Sur place à Marseille, Célia Quiré.
Ces représentants de l'Amazonie intègrent pour la première fois l'Union internationale de conservation de la nature. Ils pourront voter et faire entendre leur voix au cours des discussions. Claudette Bonté vient de Guyane française. Elle a un message à faire passer.
Protéger la forêt, c'est quand même un rôle essentiel puisqu'on dit que c'est le poumon de la planète. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, il fallait que les gardiens de la forêt eux-mêmes puissent être présents dans cette UICN et pouvoir négocier plus de participation des peuples autochtones à l'UICN. On voudrait 80% de sauvegarde de l'Amazonie avant 2025, si c'est possible.
Un texte visant à limiter la déforestation a bien été adopté, mais le Brésil, grand absent de ce congrès, est revenu en arrière sur le sujet, regrette Christophe Ducastel de l'Agence française de développement.
Il y a eu de fait une remise en cause, donc on observe une reprise de la déforestation effectivement depuis deux ans à peu près. Donc tout ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'effectivement on ait à minima effectivement une reprise des engagements qui avaient été pris par les Brésiliens durant les années précédentes, et en particulier d'assurer 80% de protection de leurs écosystèmes.
De son côté, la France a bien une stratégie de lutte contre la déforestation. Pour Emmanuel Macron, il faut produire les protéines en France, ce qui limitera les importations de soja. Des ONG comme le WWF demandent une loi européenne qui interdise la mise sur le marché de tout produit issu de la déforestation.
Une découverte surprenante et un oubli à 40 000 euros en petite coupure. Un chauffeur de bus de Nîmes a retrouvé vendredi à la fin de son service un sac oublié. Sans ouvrir le sac, il l'a apporté aux objets trouvés. C'est une étrangère qui avait oublié son bagage. La suite est racontée par Nasser Mohamedi, représentant syndical chez l'opérateur de transport Tango à Nîmes.
Le conducteur n'avait pas vu qu'il y avait une somme d'argent à l'intérieur. Et en ouvrant le sac, donc, il a découvert qu'il y avait une somme d'argent en petite coupure. Ils ont appelé le commissariat et c'est la police qui est venue récupérer donc ce sac. Et lorsqu'ils ont compté la somme d'argent, donc il y avait une somme de 40 000 euros. C'est très 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 régulièrement que en fin de service, nous trouvons les objets dans le bus, un téléphone portable, ordinateur, porte-monnaie, 40 000 euros. C'est pas quelque chose qui arrive souvent. À ma connaissance, personne n'est venu récupérer ce sac. Je crois qu'on peut dire que si vous perdez quelque chose dans nos bus, c'est aussi sûr que la Banque de France, hein, puisque comme vous le voyez, tout est ramené donc au service d'objets trouvés.
Voilà, les bus animent aussi sûr que la Banque de France, Nasser Mohamedi, avec Juliette Piron de France Bleu, Gare Lozère. h 13 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud.
Bonsoir.
Avec d'abord du football et un cinquième match nul d'affilée pour l'équipe de France hier soir en Ukraine. Des Bleus qui continuent à balbutier leur football.
Deux points sur les deux derniers matchs. C'est le bilan des Bleus, en effet, qui ont fait match nul un partout. Après avoir été également accroché par la Bosnie-Herzégovine sur ce même score en milieu de semaine, en comptant les matchs de l'Euro, la France a enchaîné 5 résultats nuls de suite, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire des Bleus. L'équipe de France ne sait plus gagner, elle ne fait plus peur à ses adversaires. On est loin des Bleus conquérants d'il y a quelques mois, loin des Bleus qui nous ont fait vibrer lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Mais pour Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, il ne faut plus penser au passé.
La Coupe du Monde, c'était 3 ans. Ce qui s'est passé, vous le savez, personne ne pourra rien y changer. L'important, c'est aujourd'hui et demain. Donc, vous savez, notre situation, après, je ne vais pas rentrer dans des détails qui ne sont pas que des détails d'ailleurs, forcément. Avec le groupe, il y a eu beaucoup de changements. Je pense que je n'ai jamais effectué autant de rappels de joueurs que pendant un tel stage. Après, ceux qui sont là, j'ai confiance en eux, bien évidemment, mais c'est pas regarder dans le rétro. Et c'est aujourd'hui, avec des adversaires, mais quand ils jouent contre nous, évidemment, ils ont eu un surplus de motivation. On joue pratiquement que des équipes qui sont très, très bien regroupées aussi. Donc, ça augmente la difficulté. Mais ce ne sont pas des excuses, c'est la réalité. Comme on a un peu moins de réussite, et on doit être capable de mettre plus aussi. Bien évidemment.
Voilà, Didier Deschamps, le sélectionneur des joueurs de l'équipe de France de football, avec Cédric Guillou. Les Français rentrent demain d'Ukraine. Ils iront à Lyon, où ils joueront mardi soir contre la Finlande. Un nouveau match de qualification pour le Mondial.
L'US Open de tennis, il n'y a plus de Français depuis l'élimination de Gaël Monfils hier soir. Mais à New York, on débute aujourd'hui les huitièmes de finale.
Et à ce stade de la compétition, le tableau masculin est pour le moins surprenant. Certains joueurs sont encore en lice alors que personne ne les attendait à ce niveau. En fait, ils sont 6 sur les 16 joueurs encore en course. Bonsoir Fabrice Abgral.
Bonsoir Jean-Pierre.
Et comme le veut la formule, 6 joueurs qualifiés, on peut le dire, d'invités surprise.
Alors ils s'appellent Botik van de Zandschulp, Jenson Brooksby, Peter Gojovzik, Oscar Otte, Lloyd Harris et Carlos Alcaraz. Ils sont allemands, néerlandais, américains, néo-zélandais ou espagnols et ils se situent tous au-delà de la 50e place mondiale et 3 d'entre eux au-delà du top 100. Ils sont issus des qualifications, voire invités par les organisateurs. Et avant cette US Open, aucun d'entre eux n'avait atteint les 8e de finale en Grand Chelem, au mieux le 3e tour, mais jamais plus loin. Alors certains ont profité des circonstances grâce à des éliminations prématurés de joueurs tête de série qui devaient croiser leur route. D'autres, en revanche, ont réalisé des exploits. Le plus retentissant, c'est celui du prodige espagnol Carlos Alcaraz, 18 ans, vainqueur de Stefano Tsitsipas, ou celui de Lloyd Harris, victorieux hier de Denis Shapovalov. Il y en aura au moins un en quart de finale, puisqu'aujourd'hui, Carlos Alcaraz, le 50e mondial, sera opposé à l'allemand Peter Gojovzik, le 141e. Certains autres seront condamnés à l'exploit. C'est le cas de Jenson Brooksby, l'américain, 99e, se mesurera en 8e de finale à Novak Djokovic, le numéro 1 mondial. Quant à l'allemand Oscar Otte, le 144e mondial, le plus mal classé des joueurs encore en lice, il défiera tout simplement l'italien Matteo Berrettini, l'actuel 8e mondial.
Fabrice Agral est parmi ces inconnus qui joueront les 8e de finale. Il y a un joueur américain originaire du Sierra Leone qui commence à faire parler de lui.
Et son nom, c'est Frances Tiafoe. Il sera opposé au Canadien Félix Auger-Aliassime dans un match de la nouvelle génération du tennis ce soir. Fabrice est désormais une valeur sûre du tennis américain depuis 4 ans, mais il est arrivé au plus haut niveau alors que c'était loin d'être gagné.
En fait, l'histoire de Frances Tiafoe, c'est celle d'un gamin qui est tombé amoureux d'un sport qui au départ ne lui était pas forcément destiné. « J'étais pauvre et noir, dit-il, et je voulais pratiquer un sport de riche réservé aux blancs. » C'est ce qu'il a dit en 2019 à Melbourne quand il avait atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie. Mais Frances Tiafoe ne s'est pas arrêté à ce constat. Il s'est accroché à son rêve avec l'aide de ses parents qui, au milieu des années 90, ont fui la Sierra Leone en proie à la guerre civile. Alfina, sa mère, est infirmière. Constant, son père, concierge dans un centre d'entraînement dans le Maryland. C'est là que le petit Frances découvre le tennis. Sa mère habite en banlieue dans un studio. Frances et son père, eux, logent modestement dans un local du club. Frances dort même sur une table de massage. Mais le gamin est là, tout près des cours et à la première heure, il tape dans la balle. Il joue avec des chaussettes trouées, des chaussures inadaptées et une raquette de démonstration. Mais Frances est doué, il est vite repéré. Et c'est parti. En 2012, il remporte les Petits As de Tarbes, puis à 15 ans, l'Orange Bowl, tournoi réservé pourtant au moins de 18 ans. Sa carrière est lancée, il passe professionnel en 2015, gagne le tournoi de Delray Beach en 2018 et aujourd'hui, le 50e mondial, va tenter à 23 ans d'atteindre son deuxième quart de finale en Grand Chelem.
Merci Fabrice Samgral. Et à New York, il y a des matchs, évidemment ce soir, on l'a dit, 8e de finale, match au sommet féminin, Simona Halep, Elina Svitolina, le prodige espagnol Carlos Alcaraz sera également sur les courts et puis on verra aussi le numéro 2 mondial Daniil Medvedev.
Et ce week-end, c'est aussi la reprise du championnat de France de rugby, le top 14, principale affiche ce soir à La Rochelle.
La Rochelle contre Toulouse, ça ne vous dit rien Frédéric? Eh bien c'est la revanche à la fois de la finale du dernier championnat de France et aussi de la Coupe d'Europe. Alors deux fois les Toulousains s'étaient imposés. L'événement c'est aussi dans les tribunes avec le retour du public rochelais en masse dans un stade Marcel de Flandre habitué aux rencontres à guichets fermés. Mais tout cela, Dorian Bercheny, c'était avant la crise sanitaire.
Bonjour Jean-Pierre. Eh bien oui, le mot le plus entendu tout au long de la journée, c'est celui d'impatience. Il faut dire qu'à La Rochelle, le rendez-vous dans l'antre de Flandre, c'est un incontournable. Avant la crise sanitaire, le Stade Rochelet restait sur la bagatelle de 55 matchs à guichet fermé, 16 000 passionnés, dont une large majorité d'abonnés. Le club de rugby de la ville vit donc une belle histoire d'amour avec son public. Et depuis le début d'année 2020, tous se sont contentés au mieux de jauges limitées, surtout de rencontres à huis clos. Alors ce soir, pour ce match de gala face au meilleur ennemi toulousain, le Stade de Flandre sera comble, le public rochelais prêt à reprendre enfin son rôle de 16e homme.
Merci Dorian Berchény en direct de La Rochelle donc pour France Inter. Et puis il y a un match qui se déroule, Frédéric, en ce moment. Lyon reçoit Clermont et pour l'instant avantage au Loup, hein, c'est l'équipe de Lyon, qui mène 25-19 contre Clermont.
Extinction de la flamme à Tokyo, et c'est déjà Paris 2024. On va s'arrêter maintenant sur le bilan de la délégation française à Tokyo. 54 médailles aux Jeux paralympiques, c'est largement au-dessus de l'objectif de 35 médailles annoncé avant les Jeux. Mais la France termine au 14e rang du classement des nations. Le bilan de la France aux Jeux paralympiques avec Guillaume Batin à Tokyo, c'est le long format de ce soir.
La Marseillaise a retenti à 11 reprises dans les stades et gymnases de Tokyo. Les anciens ont encore décroché des médailles. Stéphane Houdet, 50 ans, en tennis fauteuil.
J'ai les larmes qui me montent aux yeux. Je suis assez sensible à toutes les émotions, plus particulièrement des sportifs. Avant l'annonce des porte-drapeaux, c'était aussi de dire qu'on était une seule équipe. Et une seule équipe, on l'a vraiment ressenti, nous, dans le village, mais aussi avec ceux qui nous soutenaient à distance, les Olympiens. Et je pense que c'est, on rentre dans une nouvelle dimension de cette seule et même belle équipe de France.
Marie-Amélie Le Fur, l'argent en saut en longueur.
Quel jeu paralympique, par le nombre de titres, par le nombre de médailles, mais aussi saluer l'état d'esprit de cette équipe de France. Moi, j'ai trouvé qu'on avait vraiment une très très belle équipe de France, une équipe de France qui a bien vécu, qui a rayonné dans les médias. Ce sont l'image du sport paralympique, ce sont l'image des sportifs en situation de handicap. Et je pense qu'au travers de toutes ces performances, on contribue véritablement à changer aussi l'image qu'ont les personnes en situation de handicap en France.
La jeune génération est là, elle prend la relève. Hugo Didier, Alex Portal en natation, Alexandre Léauté, 4 médailles en cyclisme, premier sport fournisseur de médailles. Le tennis de table aussi, juste derrière, avec 11 médailles, dont 2 en or. Le directeur sportif du tennis de table de l'équipe de France, Stéphane Lelong.
On est très content pour le cyclisme. Bon, c'est aussi une discipline organisée à la Fédération Handisport. Donc, pendant toute la compétition, ça a été une concurrence positive qui a poussé les uns et les autres. Évidemment, c'est une fierté et un honneur d'être la deuxième discipline pour la France. Donc, oui, ça, c'est génial.
Le nombre de médailles est 2 fois plus important qu'à Rio, 9 de plus qu'à Londres. Mais il y a 30 ans, à Barcelone, l'équipe de France en ramenait 106. Quatrième au rang des nations à l'époque, en 92, position qui n'a cessé de dégringoler depuis pour être 14e aujourd'hui, derrière l'Italie, les Pays-Bas, très très loin derrière la Grande-Bretagne, inspirée depuis les Jeux de Londres 2012, le modèle à suivre que Paris 2024 va tenter d'imiter.
Le journal de 19h, Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient et le moment fort et intense de la semaine, mercredi, avec l'ouverture de ce qui sera sans doute le procès du siècle, le procès des attentats du 13 novembre 2015, un procès qui doit durer 9 mois pour juger 20 personnes, dont Salah Abdeslam, principal accusé et seul survivant des commandos terroristes. Salah Abdeslam a toujours refusé de s'exprimer devant le juge d'instruction qui l'a vu à de nombreuses reprises. Ce magistrat, Christophe Tessier, aujourd'hui en poste à la cour d'appel de Nîmes, se souvient de la première rencontre, une parole rare qu'il a confiée à France Inter.
C'était une personne que l'on avait vraiment envie de voir. Et jusqu'au moment de l'interpellation, on ne savait pas si on allait pouvoir la voir, puisque la plupart des islamistes préfèrent mourir que d'être pris vivant par les institutions. Donc on est soulagé aussi vis-à-vis des victimes, parce qu'on sait que les victimes vont pouvoir avoir un procès avec au moins une personne qui a participé directement aux faits, ce qui est rare dans ce genre de procès. Et lorsqu'on le voit arriver, je dois avouer qu'il fait un peu ni chaud ni froid, parce que c'est un homme calme, mais il ne veut pas parler. Le mutisme de Salah Abdeslam est gênant, parce qu'effectivement, on n'a pas pu savoir son rôle exact, mais plus l'enquête progressait, plus on obtenait de renseignements. ce qui permettait de construire des interrogatoires sur ces différents éléments. Il n'y répondait pas, il n'y répondait pas. Après, il faut faire avec.
Propos recueillis par Charlotte Piret. Vous retrouverez l'interview du juge Christophe Tessier dans le Zoom de la rédaction demain à 7h15. Journée spéciale demain sur France Inter, à la veille également du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Ces attentats qui ont changé le monde. Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste, qui dirige le parquet national antiterroriste, sera par exemple demain l'invité de Léa Salamé à 7h50. L'agenda politique très riche la semaine prochaine. Lundi, les journées parlementaires de la République en marche à Angers et du Parti socialiste à Montpellier. Les Républicains se retrouvent à Nîmes jeudi pour leur journée parlementaire également. Et le Rassemblement National réunit son conseil samedi à Fréjus. Et puis c'est la fête de l'humanité tout le week-end à la Courneuve. On terminera la semaine emballé. Dimanche au petit matin commencera l'emballage de l'Arc de Triomphe, un rêve de jeunesse de l'artiste plasticien Christo qui est décédé en mai 2020. Voilà pour l'agenda de la semaine. Et en écho aux Jeux Paralympiques dont on vous a parlé dans ce journal, on va vous faire entendre ce soir une septuagénaire hors norme au moment où les Jeux Paralympiques s'achèvent. Anne Morelli Jagu, 75 ans, se lance dans un défi, 110 km en fauteuil roulant de Paris aux plages de Normandie. Elle est atteinte, Anne, d'une maladie osseuse dégénérative qui l'a fait souffrir. Anne, avec bonne humeur, veut changer le regard sur le handicap, dénoncer les obstacles du quotidien pour les personnes en fauteuil roulant. Sandrine Houdin l'a rencontré. Un fauteuil sur la route, témoignage.
Je pense que à la fin des 110 km, j'aurais pris la forme du fauteuil. Parce que d'abord, toutes les petites aspérités, on les sent. Ça, par exemple, c'est rien, c'est un caillou. Ben, je vais le ressentir dans la colonne vertébrale.
Et en plus de ça, vous n'avez pas le côté lisse de l'autoroute, parce qu'évidemment, vous n'allez pas prendre l'autoroute.
Non.
Mais ça a le mérite de vous donner le sourire, ce périple.
Mes Jeux Olympiques à moi.
Pourquoi ?
Mais parce qu'on est déjà dans des difficultés énormes. Il faut qu'on dépasse ces difficultés. Sinon, on ne peut pas vivre. On est mort. Si on est comme ça sur un fauteuil, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ou bien, on reste là comme un légume, on réfléchit et on essaye de trouver des trucs qui nous fassent dépasser cette difficulté-là.
Rester debout ?
Quelque part, oui. Garder une utilité, être dans la société, se fondre en elle. Dire, mais voyez, j'existe.
Vous dites j'existe avec les poings, c'est...
Ben oui, c'est ça. Parce qu'on a déjà une vie pourrie. Arrêtez de nous la pourrir avec des regards de commisération. Moi, j'ai envie aussi qu'on me regarde comme une femme. Je ne vais pas dire comme Marilyn Monroe, parce que je ne l'ai jamais été. Mais moi, j'ai envie d'être ce que j'ai été aussi.
Ras-le-bol de quoi, en fait ?
Oh, comment vous dire ça ? Mon Dieu. En fait, on nous voit comme des... Entre le pantin et la poupée, on n'a plus de séduction. C'est terrible. On voit que le fauteuil... On voit plus que ça.
C'est peut-être le plus dur.
Ben oui. On nous regarde comme une plante, comme un légume, comme et voilà. Est-ce qu'on peut vous aider ? Moi, je peux plus entendre cette phrase. Moi, j'ai pas besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on me respecte. Moi, ce mot-là, est-ce que je peux vous aider ? Je peux plus l'entendre.
Un exemple.
Je veux faire mes courses moi-même. Et est-ce que vous avez besoin d'aide ? Mais c'est charmant, c'est adorable. Je ne peux que dire merci, mais je peux plus. Ça me nie en tant qu'individu, parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus quelqu'un, on est un handicapé. C'est atroce.
Alors, si vous arrivez au but, vous aurez gagné quoi ?
Un autre regard des autres. Un autre regard. J'espère ça, en tout cas.
Anne, 75 ans, qui veut aussi rendre hommage à ses soignants. C'est mon actu, Sandrine Houdin. Au générique de cette édition, Philippe Duclos et Alexandre Chénet, qui en régie, qui m'ont aidé à préparer ce journal, avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Sébastien Donat et Julien Loquet. Merci à l'équipe et merci à vous d'avoir suivi ce journal. La météo, dans un instant.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Jean-Michel Golinski.
La chaleur s'accentue, mettant ce lundi dans des valeurs exceptionnelles pour un début septembre, entre 28 et 35 degrés prévus l'après-midi sur la plus grande partie du pays. Les 35 degrés seront réservés au quart sud-ouest du Midi-Pyrénées au sud de l'Aquitaine. Il est prévu 33 sur la Charente, 32 sur la Haute-Vienne et la Sarthe, 31 degrés sur le centre et dans la vallée de la Loire et 28 à 30 sur les autres régions. Avec dans l'ensemble du bleu soleil ce lundi, simplement doublé d'un voile de haute altitude sans conséquence l'après-midi au nord de la Seine. Au réveil, la Bretagne aura la tête dans les nuages bas et dans le golfe du Lion, les entrées maritimes pourront perdurer une partie de la journée. Pour mardi, pas de changement avec le maintien d'une météo toujours très estivale.
Jean-Michel Golinski de Météo France.